Les mots sont les codes. Citation de Patrick Rothfuss, écrivain. Les mots peuvent allumer les feux dans l'esprit des hommes. Les mots peuvent chavirer les cœurs les plus durs. On a dit que la meilleure façon de cacher un objet de valeur consiste à le garder bien en vue. Les anciens textes des pyramides découverts dans le complexe de temples de Saqqara en Égypte en représentent un exemple magnifique. Depuis plus de 4000 ans, ce vaste labyrinthe de chambres recèle un secret resté visible aux yeux de tous, ceux qui avaient accès au complexe souterrain. Les passages aménagés sous la pyramide d'Ounas datant de la 5e dynastie sont recouverts du plancher au plafond d'hiéroglyphes qui révèlent un étonnant message. Une carte du prochain monde. Les instructions concernant le voyage de l'âme humaine dans la mort du corps physique à l'au-delà sont inscrites, gravées et sculptées sur les murs. Mais ces inscriptions, remarquablement bien conservées, sont bien plus qu'un simple manuel de voyage. Au-delà de l'alchimie, de la transition, les textes identifient une myriade d'émotions, comme l'inquiétude, le doute, l'anxiété et la peur, qui accompagnent inévitablement un tel périple. Après une vie humaine ordinaire, faite de relations complexes et intimes, de choix difficiles et des simples difficultés de la survie, l'âme, au moment de la mort, s'interroge naturellement sur les décisions qu'elle a prises au cours de sa vie. Cette évaluation personnelle peut faire naître un sentiment de doute. Est-elle digne de l'au-delà? Faute d'une présence physique pour réconforter et rassurer l'âme du roi Ounas en cours de transition, les scribes anciens qui ont tracé ces messages sur les murs ont fait appel à un principe substitut, bien connu dans toutes les sectes religieuses de l'Égypte à l'époque. Pour soutenir l'âme lors de son périple à l'instant de la mort, il fallait vraiment changer l'esprit avant. Ce changement allait déclencher le processus physique assurant à l'âme un périple agréable dans l'au-delà. Pour que réussisse cette initiation avant la mort, les textes des chambres funéraires devait être identique à ceux que l'âme, dans ce cas celle du roi Ounas, connaissait déjà avant la mort. Cela signifie qu'à son dernier instant, le roi pensait déjà à son périple dans l'au-delà. Il était déjà prêt, émotionnellement, à une transformation énergétique en vue de sa transition imminente. Son cerveau avait déjà été formé à soutenir cette nouvelle expérience. Les hiéroglyphes au mur du temple constituaient le catalyseur d'un changement de pensée que le roi Ounas avait déjà adopté. L'essentiel ici est que les hiéroglyphes, des mots en images, étaient les codes qui déclenchaient les changements. Le secret de l'Himalaya. Sur le plateau tibétain, chaque journée connaît à la fois un été et un hiver. L'été dans l'intensité du soleil direct en haute altitude et l'hiver lorsque le soleil disparaît derrière les pics en dents de scie de l'Himalaya. J'avais invité 40 personnes à se joindre à moi sur un parcours qui nous menait ici, de l'autre côté du monde, vers l'un des derniers endroits les plus éloignés, isolés, magnifiques et sacrés de la connaissance, un ancien monastère tibétain. Durant 14 jours, nous avions acclimaté nos corps à des altitudes de plus de 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avions traversé une rivière glacée sur des barges de bois mal équarries et conduit pendant des heures en nous regardant mutuellement au-dessus des masques chirurgicaux qui nous protégeaient du nuage de poussière qui flottait par les lattes du plancher de notre antique autobus chinois. Nous accrochant au siège et même les uns aux autres, nous nous étions arc-boutés secoué sans dessus dessous en traversant des ponts à moitié emportés et un désert sans route, uniquement pour nous trouver à cet endroit même. Mais la beauté de la destination valait largement le prix des secousses et la poussière. Si les monastères étaient d'accès facile, des milliers de gens au cours des siècles auraient fait ce périple, ce qui aurait gâché au profit du progrès la sagesse préservée dans ces immortels lieux saints. Ce jour-là, je me suis retrouvé assis avec mon groupe sur la pierre froide d'une chapelle sans fenêtre, attendant notre première rencontre avec le doyen à la tête de ce temple ancien. Les mots sont les codes. Mon attention fut attirée par les yeux de cet homme magnifique et sans âge, enveloppé de robes bordeaux et assis en lotus devant moi. C'était le supérieur du monastère. Grâce à notre traducteur, je venais de lui poser la même question qu'à chaque moine et nonne que nous avions rencontré tout au long de notre pèlerinage. Quand nous nous voyons en prière, ai-je commencé, qu'est-ce que vous faites dans votre corps? Quand nous nous voyons de l'extérieur, entonner et psalmodier des mantras de 14 à 16 heures par jour, que se passe-t-il en vous? Lorsque le traducteur transmit la réponse du supérieur, une sensation puissante se répandit par vagues dans tout mon corps, et je sus que c'était la raison pour laquelle nous étions venus à cet endroit. « Vous n'avez jamais vu nos prières, » a-t-il répondu, « parce qu'une prière ne se voit pas. » Ajustant ses épaisses robes de laine sous ses pieds, l'abbé poursuivit. « Ce que vous avez vu, c'est ce que nous faisons pour créer le sentiment dans nos corps. Le sentiment, c'est la prière, et les paroles créent le sentiment. » Les codes de sagesse. La clarté de sa réponse reflétait des découvertes rapportées dans de récentes publications scientifiques. Il me disait que les paroles des anciennes psalmodies sont des catalyseurs suscitant des sentiments qui changent le corps de la personne. Les mots sont des codes. Les mots sont les codes. Son message faisant écho à des idées enregistrées dans les écritures anciennes des traditions gnostiques et chrétiennes de l'Occident il y a plus de 2000 ans. Par exemple, dans les premières traductions du livre biblique de Jean, chapitre 16, verset 24, on nous a enjoint de charger nos prières de paroles qui nous baigneront du sentiment que notre prière est déjà exaucée. Demandez sans intention cachée et entourez-vous de votre réponse. Pour que votre joie soit complète, soyez enveloppés par ce que vous désirez. On voit ici que les paroles déclenchent l'émotion qui charge nos prières et déclenche une cascade d'événements. Lorsque nous nous permettons de pleinement accueillir le sens de nos paroles au plus profond niveau de la conscience, celles-ci déclenchent des réactions neurologiques et biologiques qui reflètent l'intention des codes. Ce pouvoir de déclencher cette réaction en chaîne biologique, Thomas, le scribe de l'évangile perdu du même nom, l'a clairement identifié. Il affirme que si on disait à une montagne de se déplacer, elle le ferait. Puisque la sagesse était si puissante dans l'Antiquité et fonctionnait avec constance sur une longue période, elle doit bien nous être encore utile aujourd'hui. L'abbé tibétain et l'évangile gnostique décrivaient le même principe dans un langage quasi identique. Pendant plus de 5000 ans, nos traditions spirituelles les plus anciennes et les plus chères ont reconnu la relation entre les mots et le fonctionnement du cerveau. Elles reposaient sur des structures verbales précises que l'on récitait, prières, mantras, hymnes et psalmodies, pour obtenir l'inspiration, la sécurité, le réconfort et la guérison devant les inévitables difficultés de la vie quotidienne. Même si les anciens peuples autochtones n'étaient pas composés de scientifiques selon les normes actuelles, il comprenait très bien l'effet des codes verbaux. Même si les temps ont changé, nous ne sommes pas tellement différents de nos ancêtres lorsque nous réagissons aux épreuves de la vie qui se présentent à notre porte. La perte de nos proches nous ébranle encore. Nous demandons encore la protection en cas de peur. Nous cherchons encore à être guidés devant des choix difficiles. Et nous pouvons tout de même tirer parti des codes de sagesse découverts par nos ancêtres à leur époque.